Le nouveau guide alimentaire devant remplacer la version de 2007 est en retard, constate Louise Lambert-Lagacé.
D'essayer d'avoir plus d'informations sur le cheminement, le déroulement, le processus. Mais je me rends compte que je vais peut-être être ici l'année prochaine pour parler du nouveau guide parce qu'il n'est pas prêt de naître, si je peux dire.
Les principes directeurs devant orienter les travaux de Santé Canada montraient la voie qu'on entendait suivre. Et Santé Canada voulait travailler indépendamment de tout intérêt de l'industrie agroalimentaire.
Santé Canada, dans ses souhaits, voulait avoir ce que j'appelle un guide PPP, donc parfait sur le plan scientifique, pratique et bien compris de tous les Canadiens et pur à l'abri de toute ingérence. Ça, c'était leur souhait. Mais la situation actuelle, c'est un guide qui est mal perçu malgré une image de marque qui est très forte. Et ça, ça a été suite à une enquête pan-canadienne en 2012 où là, on a demandé aux Canadiens où est-ce que vous trouvez votre information en nutrition. Et le guide alimentaire se retrouve en quatrième position après l'Internet, après la famille et les amis, après les émissions de télé sur l'alimentation. Et puis les médecins puis les diététistes, on arrive en cinquième. Donc, bon, le guide arrive en quatrième. Et il n'est pas suivi. Il n'est pas suivi par la majorité des Canadiens. Moi, je dis toujours que le guide de 2007, si tout le monde avait suivi ce guide, il n'y aurait pas de problème d'obésité ni de diabète, ou il y en aurait beaucoup moins au Canada. Parce que si on regarde le guide tel qu'il était conçu, la dernière mouture de 2007, ça aurait été facile de bien et mieux manger avec ce guide. Mais on ne suit pas. Alors, quel a été le processus de révision? Alors, c'est long, vous allez voir. Depuis en 2013 à 2015, on a regardé ce qu'on appelle les données probantes. Donc, l'état de santé des Canadiens, les habitudes alimentaires, plus ou moins élaborées à ce niveau-là, mais quand même, on a regardé. Les tendances sur la recherche scientifique, les liens avec l'alimentation et les maladies. Donc, pendant 2 ans, on a établi ce document de données probantes. On a commencé une première consultation en 2016 avec 20 000 répondants pour la première consultation. En 2017, on a eu l'élaboration des 3 principes directeurs. La deuxième phase, qui a été plus resserrée en 2017, on a eu 6 700 répondants. Et on va regarder la répartition des répondants parce que ça vient d'un peu, tout le monde pouvait répondre à cette consultation de Santé Canada. Et pendant ce temps-là, il y a eu une banque d'experts, des experts qui ne pouvaient pas avoir aucun lien avec l'industrie alimentaire parce qu'on voulait être pur. En 2018, il y a eu une consultation via des groupes de discussion. Donc, on a présenté à des groupes comme aujourd'hui les principes directeurs et on a eu des résultats. Mais entre-temps, en 2016, plus que 200 médecins, c'est rare qu'ils s'intéressent à la nutrition, mais là, ils ont écrit au ministre de la Santé en reliant le guide alimentaire aux problèmes d'obésité au Canada. Et le Sénat a produit un document sur l'obésité au Canada, une approche pan-sociétale pour un Canada en meilleure santé. Et juste pour vous donner un exemple de la lenteur des choses, si vous avez vu, on parlait du projet de loi S-228 qui, dans le moment, reste au Sénat sans être adopté finalement, qui était le projet qui faisait suite à ce rapport de 2016 pour bannir la publicité de la malbouffe destinée aux enfants. Et ce n'est pas encore adopté. Et ça fait depuis 2016 que c'était écrit dans leur rapport que ça devait être une des mesures appliquées. Alors, on va regarder les principes directeurs. Peut-être que vous les connaissez par cœur, mais on va les regarder et on va regarder les réactions de ces principes directeurs. Donc, le premier, bien, c'est de la vertu là, quand on dit une variété d'aliments et de boissons nutritifs est le fondement d'une saine alimentation. Mais là, la vertu s'élabore avec une consommation régulière de légumes, de fruits et d'aliments riches en protéines, surtout en protéines d'origine végétale. Là, c'est déjà un accro. C'est-à-dire, c'est là que ça accroche un peu beaucoup, mais c'est quand même l'élaboration en 2017 de cette recommandation. L'inclusion des aliments qui contiennent surtout des lipides ou des gras insaturés plutôt que des gras saturés. Là aussi, ça accroche un peu. Et une consommation régulière d'eau, bien ça, personne ne peut être contre ça.
Les informations ont filtré jusqu'à l'industrie qui a réagi, ce qui a finalement poussé les politiciens fédéraux à accepter que des mémoires soient déposées. L'industrie que l'on souhaitait garder à distance a donc pu, disons, contrer certaines avancées que souhaitait Santé Canada. À propos des gras dont vient de parler Louise Lambert-Lagacé, de grands spécialistes, dont le cardiologue Martin Junot, craignent bien davantage les sucres que les gras, s'appuyant sur la constatation que l'augmentation phénoménale de l'obésité en Amérique du Nord coïncide avec la mode de la réduction de consommation des gras. Mais passons au deuxième principe directeur.
Le principe directeur numéro 2, donc des aliments et des boissons transformés ou préparés riches en sodium, sucre, lipides et saturés nuisent à une saine alimentation. Alors, qu'est-ce que la Santé Canada nous recommande? Une consommation limitée d'aliments transformés ou préparés riches en sodium, en sucre et en lipides saturés.
On devrait donc, selon le terme utilisé dans une version du guide, s'abstenir de boire des jus de fruits et peut-être même du lait au chocolat. Et le troisième principe directeur que s'était donné Santé Canada.
Le principe directeur numéro 3, bon, des connaissances et des compétences sont nécessaires pour naviguer dans un environnement alimentaire complexe et favoriser une saine alimentation. Alors, c'est tout un défi pour Santé Canada, comment ils vont nous apprendre à mieux cuisiner, ou à plus cuisiner. Alors, choisir des aliments nutritifs en magasin ou au restaurant. Il va falloir changer des menus de restaurant aussi. Planifier et préparer des repas et des collations sains. Prendre des repas en famille ou entre amis aussi souvent que possible. Bon, bien ça, on peut tous être d'accord avec ça.
Mais comme je le disais, il y a un retard important dans le dépôt du nouveau guide alimentaire.
Je pense que ces mémoires de cet été ralentissent la naissance du guide alimentaire. Parce que on ne peut pas avoir reçu tous ces mémoires, de regarder les arguments qui y sont présentés et continuer exactement dans la même ligne. Mais là, je vous parle comme quelqu'un qui est de l'extérieur. Mais j'ai l'impression que ça doit avoir ralenti beaucoup le processus parce que quand mon cher cousin m'a invité, moi, je croyais que j'aurais un nouveau guide à vous présenter. Mais de semaine en semaine, les nombres de téléphones à Santé Canada et toujours pas de guide. Donc, ce qu'on devait avoir, on n'aura pas un guide comme ce qu'on a vu. On n'aura pas un 3-4 pages couleur pour tout le monde à partir de l'âge de 2 ans. On va avoir des outils différents pour les différents groupes de la population. Je ne sais pas dans quelle forme ça va prendre. Ils ont l'air d'avoir un plan. Alors, ce qu'on appelle partie 1 d'un nouveau rapport stratégique sur les directives alimentaires destinées aux professionnels de la santé et responsables des politiques. Donc ça devait arriver avant Noël. Et il devait avoir des messages clés et des ressources complémentaires pour les Canadiens. Donc ça va être en 2019. Là. Et en 2019, on devait avoir une deuxième partie du nouveau rapport stratégique sur les directives, qui sera composé de modèles alimentaires pour différentes sections de la population, avec des quantités et des catégories d'aliments et des ressources complémentaires pour les Canadiens. Malheureusement, là, comme je ne suis pas dans ce comité, ça me semble encore abstrait.
J'ai demandé à Louise Lambert-Lagacé de poursuivre son analyse de ce que pourrait finalement être le nouveau guide alimentaire canadien. Madame Louise Lambert-Lagacé, le nouveau guide alimentaire canadien, ou pourrait-on dire le futur, parce qu'on ne l'a pas vu dans sa version finale, est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent dans ce qui circule déjà comme information quant au contenu de ce guide?
Je crois qu'il y a beaucoup d'éléments positifs dans le guide. Et ce qui est un peu désarmant, c'est qu'on ne sait pas comment il va être présenté. On ne sait pas. On a eu des principes directeurs qui sont
excellent pour la santé en général. Il y a des éléments qui peuvent accrocher parce qu'ils ne reflètent pas ce que les Canadiens sont habitués de manger. Je veux dire, si on va en particulier seulement vers les protéines d'origine végétale, on va avoir des gens qui vont avoir des problèmes à bien se nourrir tous les jours. Mais je crois que l'exercice jusqu'à maintenant a été bien fait, mais que c'est une grossesse difficile. On a hâte de le voir en couleur. On a hâte de le voir parce que jusqu'à maintenant, on a des principes. On a des principes, mais on ne sait pas comment il va être appliqué et à quel moment il va être appliqué. Donc, on demeure avec un guide qui est en gestation depuis 2013.
Mais justement, les principes restent les mêmes à la base. Bien manger, c'est une question d'équilibre.
C'est une question d'équilibre et de variété. Mais là, on semble mettre de côté ou mettre une ombre sur les protéines d'origine animale. Et ça peut nuire à plusieurs aliments, qu'on pense aux produits laitiers, à la viande, même aux poissons. Je veux dire, ça change beaucoup nos habitudes. Jusqu'où on va aller à partir de ce principe directeur, ça peut être difficile pour le consommateur.
Et encore une fois, tout sera dans la présentation finale et dans les moyens de communication qu'on utilisera pour le présenter, ce guide et le communiquer. Mais il y a d'autres informations qui circulent. Par exemple, sur le lait, on pourrait même avoir certains avertissements quant à la consommation de lait, qui pourtant est considéré depuis toujours comme quelque chose de bon.
Oui, mais j'ai l'impression de parler sans avoir le mot final. Vous savez, on a des craintes. Je peux dire que je partage une partie des craintes. Je pense que l'exercice qui a été fait par Santé Canada a été très élaboré, des consultations répétées avec des milliers de personnes. Mais qu'est-ce qu'on va faire de façon très concrète? Et comment on va situer, mettons, les produits laitiers dans une alimentation variée, équilibrée? C'est des questions qui sont encore là.
Mais semble-t-il qu'il est déjà acquis que l'on va abandonner la recommandation traditionnelle, si on veut, de 5 à 10 portions de fruits et légumes par jour. On va aller plutôt dans des orientations plus générales.
Savez-vous que je ne le sais pas? J'ai aucune idée. On mentionne qu'on va suggérer des quantités, on va suggérer des catégories d'aliments, mais on reste dans de l'abstrait. En autant que moi, je suis concernée, là, j'ai hâte de voir jusqu'à quel point on va pouvoir être bien compris. Parce que si on ne mentionne pas des quantités ou des aliments en particulier, comment veut-on mieux manger?
Le guide alimentaire brésilien. Lui, on le connaît, vous en avez pris connaissance. C'est pas nécessairement, selon vous, la voie à suivre.
C'est-à-dire que c'est pas le même contexte. Je crois que le Brésil avait des problèmes de santé et de nutrition que nous n'avons pas. Les habitudes des Brésiliens étaient très loin de ce qu'on souhaitait. Donc, le guide brésilien fait la guerre aux aliments ultra transformés. Ce qui probablement ne sera pas la base de notre guide alimentaire. C'est-à-dire qu'on n'en veut pas des aliments ultra transformés, mais ça ne sera pas le message principal. Tandis qu'au Brésil, on a beaucoup mis l'accent sur retourner dans votre cuisine, faites vos aliments à partir des ingrédients de base, essayez de manger le moins possible des aliments ultra transformés. Donc, c'est une autre approche. C'est une autre approche complètement.
Donc, il faut attendre le document officiel et à partir de ce moment-là, on pourra dire, des gens de votre compétence et de votre expérience pourront dire effectivement, on est sur la bonne voie, il y a peut-être des risques à suggérer ceci ou cela, mais il faut attendre le document.
Malheureusement, oui. C'est qu'aujourd'hui, on travaille avec des souhaits, avec des principes directeurs, mais on ne travaille pas avec un outil fini. Et on ne peut pas le critiquer vraiment, mais on peut juste espérer qu'il sera à la hauteur de nos espoirs.
Mais pour l'instant aussi, tout ça est dans le camp politique, là, parce que le OK final, pour parler en bon français, l'autorisation finale du guide doit venir des autorités politiques.
Bien oui. probablement. Quand on pense que les derniers mémoires qui ont été présentés à l'été 2018 ont été présentés au comité permanent de la Chambre des communes. Donc, on a pris ce dernier chemin pour atteindre le ministère de la Santé. À ce point de vue-là, je trouve que c'est très politique.
Et encore là, dans ces recommandations-là ou ces propositions-là qui ont été faites l'été dernier, il y en a un peu de tous les genres, là.
Absolument. Absolument. Donc, mais c'est que l'été dernier représente l'avenue qu'on ne voulait pas prendre, c'est-à-dire l'ingérence des groupes de pression, des producteurs, de l'industrie alimentaire. On souhaitait se passer de cette influence et là, elle est rentrée avec ses grosses bottes.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
Ici Lionel Levac. Il y a ce que le guide alimentaire va proposer ou recommander fortement. Il y a les moyens, les outils qui serviront à diffuser, faire connaître et comprendre le guide, et il y a l'interrogation permanente à savoir si la version 2019 du guide sera plus efficace que la version 2007. Une chose sera différente bientôt. On est à réviser les règles d'étiquetage, faire savoir clairement, peut-être par des codes de couleur, qu'un aliment est bon, qu'un autre l'est moins, ou encore que certains produits sont tout simplement à éviter, fera que peut-être cette fois sera la bonne. Au revoir.